Dans les jeudis en question cette semaine sur CFM, deuxième partie du rendez-vous autour de la société de l'urgence. L'invité du collectif, c'est Aline Luang-Valassi qui est professeure de philosophie. Deuxième partie, donc, le débat. Et on part sur la philo, une histoire de temps.
Hannah Arendt, effectivement, elle pense le temps, comme Héraclite, le temps c'est un flux continu. Alors elle, effectivement, le présent... ce moment où on est là, c'est un moment impossible, puisqu'il est toujours déjà passé. C'est un espèce de non-lieu. Alors c'est vrai que le problème du temps, c'est que le passé, il n'est plus là, le futur n'est pas encore, et ce qui devrait être là, c'est-à-dire le présent, finalement, il est toujours en train de passer. Alors, la question, voilà, alors la question, l'exemple, il est très intéressant. Est-ce qu'il est possible de s'arrêter? Alors, peut-être qu'on peut arrêter son activité, mais pendant qu'on arrête son activité, nos cheveux continuent à croître, on perd des cellules mortes, c'est-à-dire que ce que nous sommes continue à se transformer dans le cours du temps. Hein? Nous sommes toujours... Ce qui fait quand même notre être... Et c'est pour ça que ce que tu dis, c'est extrêmement intéressant. Il faut savoir se souvenir qu'on est, en quoi consiste notre humanité. Ce qui fait notre humanité, et qui fait que nous ne sommes justement pas des dieux et que nous avons un certain nombre de problèmes, c'est que nous sommes mortels. Hein, c'est que, eh bien, nous sommes pris dans un flux temporel qui va, on va dire, de la naissance à la mort. Et dans ce flux temporel, nos actions sont irréversibles. Voilà. Et ça, eh bien, c'est un donné. Nous ne pouvons pas changer le cours des choses. Alors, je peux m'arrêter de parler, je peux m'arrêter de bouger pendant une minute, si vous voulez, pour prendre mon temps. Hein, mais ça n'empêchera pas le temps de s'écouler et je vieillirai quand même. Je me rapprocherai un peu plus de ma mort, pas plus vite, mais je continuerai, on va dire, le cours de ma vie. Alors, c'est vrai que ce moment où l'homme va prendre son temps, c'est-à-dire va prendre le temps de se poser pour se dire « je suis un être humain et je ne suis pas une machine », c'est-à-dire « je ne suis pas subordonné à quelque chose qui n'est pas l'homme », à savoir la production de marchandises ou... eh bien, c'est le moment où l'homme, finalement, prend le temps de vivre cette expérience temporelle-là. Il ne s'arrête pas, il ne se fiche pas dans quelque chose qui serait un présent, mais tout d'un coup, il se recentre sur une expérience proprement humaine. Le problème, on va dire, de la vie quotidienne, alors après, chacun a des variations particulières, c'est-à-dire qu'ensuite, chacun développe des stratégies personnelles pour être soi-même dans l'existence, et heureusement, parce que sinon, on serait vraiment dans un monde inhumain. Mais c'est vrai que la grande tendance, parce que si on prend une grande tendance, la grande tendance, c'est d'aller quand même vers une forme de barbarie et d'inhumanité et de dépossession de nous-mêmes. Hein? Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'individuellement, chacun de nous a des stratégies pour se poser dans la journée, pour avoir des moments où on va faire du yoga, de la peinture, être avec ses enfants, etc. Et on n'est pas tous... des machines mises au service de la productivité, de la performance de son entreprise, etc. Même si nous vivons dans une société qui va construire des valeurs érigeant la performance comme étant une valeur suprême, comme étant le moyen de s'intégrer à la société. Voilà. Hein? Donc, s'arrêter, c'est pas arrêter le temps. Hein, c'est prendre le temps, c'est finalement se réapproprier l'expérience temporelle qui est constitutive de l'humanité. Et c'est ça qu'on a perdu. C'est ça qu'on a perdu parce que finalement nous vivons dans des contraintes qui sont d'abord des contraintes matérielles, qui font que nous sommes dépossédés de notre qualité de sujet, c'est-à-dire d'être auteur de nos actes, d'être responsable de nos actes. Nous vivons dans un système qui nous donne des objectifs, qui sont des objectifs inhumains. Nous devons être performants, produire, travailler de telle heure à telle heure si nous faisons les 3-8. Ça n'a rien d'humain, mais c'est l'homme qui s'adapte au rythme de la production. Donc ça, ce sont des contraintes matérielles qui vont déposséder l'homme de son expérience temporelle, de sa vie. Tout simplement du fait d'exister comme un sujet et de ne pas exister comme une chose. Le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde dominé par quelque chose qui est de plus en plus inhumain, dans le sens où ce n'est plus à l'échelle humaine, c'est un monde qui voudrait faire de l'homme un objet et non pas un sujet. Mais nous résistons, heureusement, pour être optimiste. Donc il y a des expériences comme les communautés, il y a... voilà. Moi, je suis très critique avec cette idée de Virilio, ou bon, Cétès, qui dirait que nous sommes dans un maintenant figé dans un présent absolu, que les jeunes générations sont des espèces de nouveaux barbares déconnectés de toute tradition, dans le sens où je pense que profondément l'homme a besoin de s'inscrire dans un récit originel, dans une tradition, quelle qu'elle soit. Et donc, si la tradition, elle est plus transmise par les ancêtres sous l'arbre aux palabres, la tradition, elle va quand même être transmise par le cinéma américain, Star Wars, etc. Hein? C'est-à-dire que l'homme, pour être, il a besoin de s'inscrire dans une histoire, et non seulement il a besoin de s'inscrire dans une histoire, mais c'est encore plus important, il a besoin de se raconter cette histoire de ses origines. Donc, il a besoin du passé. Il a besoin d'avoir une mémoire. Et autant il est très difficile d'avoir des preuves du présent, hein, ça fait penser, c'est comme l'amour. L'amour, ça n'existe pas, il y a des preuves d'amour. Ben, le présent, il n'y a pas de preuves du présent. Mais par contre, des preuves du passé, on en a. Voilà. Donc le présent, le passé, on peut dire qu'il a une réalité, il a une matérialité. Le présent, c'est plus difficile. Quant au futur, bon, ben, le futur, il n'est pas encore. Hein. Mais s'il y a bien une chose dont nous pouvons être certains, encore, enfin j'espère, c'est qu'il y a eu un passé, voilà, dans lequel nous cherchons à nous enraciner. Alors c'est vrai qu'en même temps, hein, en même temps, et c'est ce qui pose quand même d'énormes problèmes aujourd'hui, pour penser la crise que nous traversons, qu'elle soit économique, politique, ou même ce qu'on appelle entre guillemets la crise des valeurs, c'est que les mutations de notre civilisation font que nous sommes dans des situations inédites, hein. Si on prend par exemple la brutalité des transformations matérielles qui affectent la vie d'un Chinois aujourd'hui, qui à 10 ans vivait comme au Moyen-Âge, eh bien c'est vrai que ce Chinois-là vit une expérience que nous ne partageons pas. Enfin, il vit un rapport au temps, vit un rapport à l'espace qui n'est pas le nôtre. Et c'est vrai que son expérience du temps réel, ça n'a rien à voir avec notre expérience du temps réel.
Et son passé non plus.
Et son passé non plus. Mais en même temps, il a quand même un passé. Il s'inscrit quand même dans une histoire. Même si cette histoire n'est pas finalement construite avec les mêmes rythmes que nous.
Mais peut-être que le passé du Chinois n'est qu'un rêve pour nous.
C'était pas un rêve, c'est, je dirais, pour nous, de loin, c'est peut-être un fantasme. Voilà. Mais pour lui, c'est une réalité. Après, bon, le travail des historiens chinois est aussi valable que le nôtre. C'est-à-dire qu'après, l'histoire est une science. Donc après, les historiens font, alors, ça aussi, essayent d'avoir un rapport objectif d'interprétation, font un travail d'interprétation du passé pour essayer de restituer, justement, cette réalité du passé. Et situer le discours, le récit, au-delà des interprétations, au-delà des fantasmes, au-delà des illusions. Alors après, est-ce que l'historien parvient à restituer exactement le passé tel qu'il est ? Ça, c'est un grand débat. Mais il y a quand même, on va dire, une idée qui guide le travail de l'historien, qui est d'essayer de raconter les faits tels qu'ils ont eu lieu. Alors après, bon, il y a de grands débats sur les méthodes de l'histoire, mais il y a quand même un souci, on va dire, un souci d'objectivité et d'essayer de trouver, comme l'enquêteur de police, les preuves, les évidences, hein, au sens anglais, ce qui montre le passé. Hein, voilà. Parce que c'est vrai, ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est que ce que l'on raconte, c'est jamais ce que l'on voit. Ce que l'on raconte, c'est toujours ce que l'on imagine voir. Voilà. Hein? Et donc, le travail de la science, quelle qu'elle soit, c'est justement de se placer au-delà de ce que l'on imagine voir pour essayer de voir, enfin de voir. Voilà. Et donc, l'historien fait ça avec, justement, le passé, le temps passé. Hein, mais s'il y a bien une certitude, c'est que, bon, le passé, il a bien eu lieu. Quant au présent, voilà. Hein, nous sommes là, mais en même temps, nous sommes déjà plus là à chaque instant. Voilà. Hein, alors, est-ce que nous sommes dans une illusion cartésienne, dans un grand rêve? Peut-être. Hein. Peut-être que nous avons même jamais été là ce soir. Et que là, en ce moment, tous, nous sommes dans notre lit, en train de rêver que nous assistons...
Comment nous sommes sûrs d'être là? Mais demain matin, peut-être que d'avoir été là n'aurait été qu'un rêve.
Oui, mais même là, à cet instant, tous, nous, nous voulons en avoir la certitude, mais rien ne prouve que nous sommes là. Vous pouvez vous pincer, mais vous pouvez rêver que vous vous pincez. Donc là, bon, nous ne pouvons que croire que nous sommes là. Et que le temps continue à s'écouler normalement. Le temps, c'est un flux. Hein. Héraclite disait, c'est un fleuve hein, dans lequel les choses, dans lequel on ne se baigne jamais deux fois. Hein. Et donc, il faut vraiment avoir cette idée que l'on est pris, dans ce fleuve. Et malgré tout, on va essayer sans arrêt. Et c'est ce que font Virilio ou les gens qui essayent de penser. Notre rapport au contemporain comme un rapport à l'instant, à l'immédiateté, on va dire à quelque chose qui serait un éternel présent. C'est-à-dire, on peut abstraitement, on va dire là nous sommes dans le présent, mais en même temps, par rapport à notre expérience, hein, le présent, ce n'est toujours qu'une abstraction, ce n'est toujours que quelque chose de purement artificiel, arbitraire. Hein? À quel moment tu peux dire que ta douleur commence dans le présent et qu'elle cesse dans le présent? Tu peux pas. C'est-à-dire à quel moment dans ton sentiment de douleur il y aura le souvenir aussi de la douleur qui a. C'est ce qu'on disait par rapport, si tu veux, au décalage. Mais c'est intéressant par rapport au décalage entre notre expérience, on va dire, du temps, le fait que nous ayons l'impression que le temps, non seulement nous n'avons pas de temps, nous n'avons plus le temps. Que le temps va et l'espace vont se rétrécir, hein, et donc et on va dire les théories de l'espace-temps de la physique, hein, donc les théories abstraites, qui scientifiques, objectives, qui disent vraiment ce qu'est l'espace-temps. Ce sont des conceptions qui sont complètement antinomiques. Un physicien va te dire qu'il n'y a pas du tout ni d'accélération ni de ralentissement du temps, que l'espace ne se resserre pas, au contraire, qu'il y a une expansion. Mais ça, c'est quelque chose dont tu ne fais pas l'expérience, mais qui est plus réel, qui est plus vrai, qui est plus réel que l'expérience que tu peux faire. Et c'est vrai qu'en philosophie, on aura tendance, je dis bien on aura tendance, à critiquer les connaissances, les opinions, qui vont être fondées uniquement sur l'expérience. Parce qu'on va dire que l'expérience, elle est toujours subjective. L'expérience, elle va toujours dire ce que tu es toi, mais elle ne dira jamais quel est exactement l'objet de ton expérience. Elle va dire comment toi tu fais cette expérience. Donc elle va dire comment toi tu expérimentes le temps. Alors c'est vrai que si tu t'ennuies ce soir, le temps va te paraître très très long. Mais si tu trouves le débat intéressant, la soirée va te paraître très très courte. Hein? Donc tu vas faire une expérience du temps. Mais dire exactement ce qu'est la soirée, sur la base de ton impression sensible, de ta perception, tu ne diras rien. Voilà. Hein? Alors, ça ne dévalorise pas ton expérience personnelle. Hein? Mais c'est juste ce que dit la philosophie et la science, c'est elles mettent le doigt sur le décalage entre nos représentations, nos idées, et finalement ce que pourrait être le monde dans sa réalité. Je dis bien ce que pourrait être le monde dans sa réalité, parce que, comme je l'ai dit, finalement, ce qu'est le monde dans sa réalité, nous ne pouvons pas y avoir accès en dehors de notre expérience. Donc, nous ne pouvons que reconstruire sans arrêt, abstraitement, en essayant de lever les filtres de la perception sensible, mais c'est toujours une reconstruction rationnelle, et on ne peut qu'espérer que cette reconstruction rationnelle de la science, qui nous raconte par exemple ce qu'est le temps, soit correspondent à ce qu'est véritablement le temps. Et comme tout à l'heure, on disait que nous ne pouvons qu'espérer et croire que nous sommes bien là ce soir, finalement, nous ne pouvons qu'espérer et croire que finalement, les résultats scientifiques, les théories scientifiques sur lesquelles actuellement on a établi un consensus, eh bien, disent ce qui est. Mais nous ne pouvons pas en être absolument sûrs. Voilà. Donc on peut pas dire que c'est parce que on ressent quelque chose que ça existe. Voilà. Hein? Donc on a le sentiment de vivre au présent et on peut espérer. Et d'ailleurs c'est ce qu'on essaye de faire quand on a des expériences où tout d'un coup on va ou même faire du yoga ou toutes ces expériences spirituelles héritées, on va dire, de l'Inde. C'est aussi bon, une volonté. Voilà. De rendre actuelle l'expérience du temps. Mais par rapport à l'exposé que j'ai fait tout à l'heure, ce que j'ai dit, finalement, ce qui nous contraignait, on avait l'impression que c'était le temps qui nous contraignait. Or, ce qui nous contraint en premier lieu, c'est la nécessité matérielle. Et c'est ce que tu viens d'exprimer en disant, finalement, au Moyen-Âge, il n'y avait pas de lave-linge, pas de lave-vaisselle, on devait couper son bois, etc. Donc, on était dans une nécessité matérielle extrêmement contraignante qui faisait que peut-être on manquait de temps. Mais là, à nouveau, on voit que le problème qui se pose, c'est pas le temps, c'est finalement le fait qu'on soit soumis à une nécessité matérielle qui est celle de satisfaire les besoins, nos besoins pour survivre. Bon, là, le problème dans nos sociétés, c'est que nous devons faire face individuellement à des impératifs qui vont s'imposer à nous. Hein, par exemple, ce qui n'existait pas au Moyen-Âge, c'est l'impératif d'avoir une activité salariée. Hein, bon, au Moyen-Âge, on pouvait... Je ne dis pas que c'était mieux ou moins bien. Hein, je dis, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes pris dans une organisation sociale qui va nous contraindre, qui va nous fixer des objectifs qui ne sont pas des objectifs qui prennent en compte nos besoins. Ces objectifs, les objectifs du système économique, ils sont très simples. Hein. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, hein, bon, là, bon, je prends l'analyse de Marx, mais parce qu'elle est extrêmement pertinente, nous ne produisons plus des biens, des marchandises pour satisfaire nos besoins, nous produisons des biens pour les échanger, ce qui n'a rien à voir. Hein? Et donc le but, c'est pas de satisfaire les besoins de l'humanité, c'est de produire toujours plus de marchandises pour développer toujours plus d'échanges et produire toujours plus d'argent. Donc cette logique de produire toujours plus de biens pour finalement produire toujours plus d'argent, c'est quelque chose dans lequel nous nous trouvons intégrés malgré nous. C'est-à-dire que même si nous ne voulons pas participer à ce système-là, collectivement, hein, alors évidemment, certains auront la chance de pouvoir faire partie de collectivités, de communautés autogérées, etc. Mais bon, moi, je me place, on va dire, par exemple, à l'échelle de la France, de l'Europe, ou même du monde. Malgré nous, nous sommes quand même obligés, eh bien, d'avoir une activité salariée pour avoir une carte d'assuré social, pour voilà, hein, pour avoir ce qu'on appelle un statut, c'est-à-dire une place dans la société. Hein. Et ça, ce sont des impératifs qui font que, eh bien, notre rythme de vie, hein, doit s'adapter à quelque chose qui n'a rien à voir avec des impératifs humains. Là, par exemple, je prenais l'exemple des 3-8. Bon, ben, l'horloge biologique de l'homme n'est pas faite pour travailler en permanence à des rythmes qui sont découpés en fonction des besoins de l'appareil productif. Hein. Voilà, ça, c'est des choses qui s'imposent à nous. Et c'est vrai que la multiplication, enfin, l'exigence de productivité, de performance du système, hein, eh bien, c'est quelque chose que nous subissons, plus ou moins, mais que nous subissons quand même. Voilà.
Et l'homme a-t-il à un moment ou à un autre, alors été en adéquation avec son horloge biologique? Jamais.
Oh, je pense pas. Je pense que quand même, il y a quand même des bon, les
comme on parlait tout à l'heure du Moyen-Âge, ils subissaient, là. Ils subissaient le... C'était pas bon.
On peut, non, il y a quand même des sociétés humaines qui ont vécu et qui, bon, pour certaines, il reste encore des sociétés protégées, c'est-à-dire pas encore touchées par la globalisation. C'est très très rare, mais on essaye. Par exemple, en Amazonie, on sait qu'il y a des populations. On essaye de ne pas aller les voir. Hein, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais il y a quand même des populations humaines qui ont vécu dans un certain équilibre avec la nature, dans un certain respect, on va dire, voilà. Aussi des besoins de l'homme.
D'accord.
Mais bon, c'est un mode de vie. Je suis pas sûre que ça nous conviendrait. Hein.
Voilà. Il y a aussi.
Alors oui, c'est si tu veux, oui. Le capitalisme, c'est une production de l'humanité. Mais alors, le paradoxe, c'est que c'est de l'inhumanité produite par l'humanité. C'est-à-dire
pourquoi,
que...
Pourquoi justement l'inhumanité? Ça veut dire quoi, ça?
L'inhumanité, c'est la négation, c'est-à-dire l'homme, la particularité de l'homme, c'est qu'il est capable de produire aussi la barbarie. La négation
mais
du respect.
Pourquoi la barbarie n'est pas humaine?
Elle est produite
par l'humain, donc voilà, elle est humaine.
C'est une production de l'homme, mais en
c'est
même
humain.
Temps, si tu veux...
C'est humain.
Oui, mais si tu veux, nous, ce que l'on place dans l'humanité aussi, c'est une valeur morale.
Oui, mais voilà. Là, c'est
les deux interventions sont extrêmement intéressantes parce que, comme je disais dans mon exposé, notre problème, c'est pas le temps, c'est l'échéance. Et notre société vit selon l'impératif dans lequel il faut que nous soyons absolument jeunes et immortels. Hein? Alors, c'est une façon de nier, mais en même temps d'affirmer cette échéance qui, de toute façon, nous attend tous. On a beau, dans notre société, ne refuser l'idée de la maladie, de la mort. De toute façon, ça, c'est la condition humaine. Hein? Quoi qu'on fasse, on peut développer la chirurgie esthétique, on peut développer le coaching, faire du sport, prendre des anabolisants. De toute façon, pour l'instant, la médecine, la biologie n'ont pas réussi à faire que nous soyons immortels. Donc, nous vivons avec cette échéance qui est celle de notre mort inévitable. Hein? Donc, nous avons beau la refuser, mais notre rapport au temps, le fait que nous n'ayons pas le temps, c'est ça. C'est le fait que nous refusions cette idée de l'échéance. L'idée de l'échéance, nous pouvons refuser de la penser, elle est quand même là. Alors, dans notre société... Cette échéance, elle est d'autant plus présente, comme je disais, que soudainement, collectivement, non seulement notre mort est inéluctable, mais aujourd'hui, la fin de l'humanité est devenue inéluctable. C'est pour ça que dans l'imaginaire collectif, l'histoire des lasagnes, l'histoire, on va dire, que la nourriture puisse nous empoisonner et... nous faire mourir, l'histoire que la médecine, au lieu de nous soigner, nous empoisonne, l'histoire que l'atome, au lieu de nous chauffer, nous éclairer, nous atomise, etc., c'est quelque chose qui traduit une angoisse bien réelle, qui est celle de la mort qu'on vit. C'est une angoisse, je dis pas que... c'est quelque chose de parfaitement sain. Hein, bon. Alors, c'est vrai que la philosophie, c'est un grand terme. Hein, Platon disait, philosopher, c'est apprendre à mourir. Mais il ne faut pas le prendre dans un sens, on va dire, négatif. La condition humaine, c'est ça. Nous ne pouvons pas aller contre, il faut vivre avec. Et c'est exactement ça, ce qui donne du sens à notre vie, c'est cette échéance. C'est-à-dire, ce qui rend passionnante la vie humaine, c'est le fait justement qu'il y ait une échéance qui soit la mort. Alors, c'est vrai que lorsque nous sommes dépossédés de nos vies, lorsque nous n'avons plus le temps, finalement, le sens que nous perdons, c'est le sens de la vie humaine. Ce qui donne de l'intérêt aux actions humaines, c'est qu'elles sont prises dans cette temporalité. Si nous étions immortels, si nous pouvions refaire à l'infini les mêmes choses, la vie n'aurait aucun intérêt. Je le dis très bien. Hein, c'est-à-dire qu'on s'ennuierait à mourir. Et au bout d'un moment... Épicure disait la même chose. Épicure dit, il n'en est rien, parce que de toute façon, quand tu es vivant, tu n'es pas mort, et quand tu es mort, tu n'es plus là pour constater. Voilà. Donc tu n'as pas de souci à avoir relativement à la mort. La mort n'est donc rien. Voilà, tu ne peux être que vivant. Tu ne peux être que vivant, mais même, non, il n'y a pas de passage.
Et c'est
soit vivant, soit mort. Ensuite, je ne pense pas que notre expérience s'appauvrisse, au contraire, je pense qu'elle s'enrichit, hein. Mais c'est vrai que relativement à la quantité d'informations, alors je dis bien d'informations et pas de connaissances, hein. L'information, c'est la donnée brute. La connaissance, c'est ce que l'homme est capable d'assimiler, de s'approprier, de construire, de mettre en cohérence. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, relativement à la quantité d'informations, de données brutes qui sont produites et qui sont accessibles, potentiellement accessibles, bon, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que notre savoir diminue. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que, ben, tu l'as dit, grâce à Internet, tu peux espérer aller au Népal, tu peux même te projeter sur le sommet de l'Himalaya et être au sommet de l'Himalaya. Tu as accès à une infinité d'expériences, de récits, d'histoires qui font que ta vie est infiniment plus riche. Voilà. Mais bon, je te rassure, tu n'auras aucun regret quand tu seras mort. Moi, je ne verrai pas les choses comme toi. Je dirais, il y a eu un moment où on vivait dans l'idéologie que, mais on le vit toujours, hein, que pour avoir sa place dans la société, il fallait travailler. C'est-à-dire qu'on vivait, on a eu un président qui nous a érigé la valeur travail comme centre de notre existence. Oui, mais alors, l'individu qui a conscience que le travail, ce n'est pas la vie, hein, là, cet individu-là, il a la chance de pouvoir envisager une vie qui soit vraiment la sienne, dont il soit vraiment l'auteur. Parce que je l'ai dit, le travail salarié, c'est une organisation sociale, hein, qui est au service, non pas des besoins de l'homme, mais qui est au service de l'accumulation de l'argent. Hein. Le travail au service de l'homme, c'est pas un travail où les hommes ont besoin de produire toujours plus, toujours plus, toujours plus. Non, c'est pas ça. Là, notre organisation du travail, elle n'a pas pour objectif la satisfaction des besoins de l'humanité. Bon, mais tous, nous sommes pris là-dedans. À des échelles différentes, mais nous sommes pris là-dedans. Donc, pendant très longtemps, on a érigé le travail comme étant, vitalement, un lieu de socialisation, un lieu d'épanouissement, un lieu de réalisation de soi. Hein, et c'est passé aussi, donc le moment où le travail est devenu quelque chose de central, je pense que c'est lié aussi au fait que les femmes, pour s'émanciper, accèdent aussi au statut de salariée. Bon, malheureusement et peut-être heureusement, on est en train de déchanter avec aujourd'hui tout le travail des psychologues, des sociologues, dont Ehrenberg, sur la question de la souffrance au travail. Hein, aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait débat dans l'opinion publique. Hein, avant, personne, on n'aurait jamais, c'était honteux de se suicider à cause du travail. Hein. Donc maintenant, c'est quelque chose qui est posé clairement. Hein, on peut mourir au travail, le travail tue. Hein, c'est plus quelque chose qui épanouit, c'est quelque chose qui tue. Donc là, quand même, collectivement, on est en train de se dire, il faut mettre des garde-fous. Ça peut plus durer. Il faut changer les choses. Hein? Alors, bon, pour l'instant, on est juste au niveau de la prise de conscience. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train quand même de décentrer, on va dire, notre identité, de décentrer les fondations qui assoient notre identité. Bon, alors évidemment, si on n'a pas de travail aujourd'hui, c'est encore une catastrophe. Hein, si on n'a pas de travail, on est, c'est pire que d'avoir un travail et de souffrir au travail. Hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'érige plus le travail comme étant la valeur. Maintenant, il y a d'autres valeurs qui vont concurrencer le travail. Mais je pense que l'individu qui se dit ma vie, c'est pas le travail, j'aurais tendance à dire que celui-là, il est sur la bonne voie. L'individu qui va se dire « ma vie, c'est le travail », pour celui-là, je me fais beaucoup de soucis. Alors évidemment, si c'est un peintre, un sculpteur ou quelqu'un qui a un travail, mais voilà.
Je pense que tout à l'heure, on avait soulevé un problème, c'était les groupes de résistance. Oui. Est-ce que ça se construit ? C'était bien ça. Comment constituer un groupe de résistance à ce remplissage du temps immuable?
Moi, j'ai une solution.
Allez, Sida.
Oui.
on pourrait commencer à construire un monde meilleur et on serait mieux dans notre peau.
C'est pour rebondir sur ta remarque, moi c'est... J'aurais tendance à penser qu'on vit dans un système qui va créer l'urgence pour dominer les hommes. C'est-à-dire, on parlait, il y a un livre justement qui parlait du système Sarkozy ou même du système politicien en général, où sans arrêt on est dans des politiques de très court terme où on nous dit, bon c'est comme ça, on n'a pas le temps, il faut les 3% réduire le déficit, on est dans l'urgence. Mais l'urgence, elle a une fonction sociale qui est une fonction de contrôle des populations. Et plus les gens sont dans l'urgence, dans la nécessité, moins ils pourront résister. Le problème, il est là. Le problème, il est là, c'est que c'est à double tranchant. Il faut lutter contre l'urgence, parce que l'urgence, elle est là aussi pour nous tenir. Et donc, les formes de résistance, c'est créer des formes de solidarité, de dialogue, d'espace, et donc d'humanité, redonner du sens à ce que nous faisons. Donc ça passe, moi je suis d'accord avec toi, ça passe par des choses très simples du quotidien. Ça, c'est dire bonjour, prendre un café,
c'est laisser aux autres partager.
Voilà. Donner de son temps. Voilà.
Prochain rendez-vous de jeudi en question sur CFM, la semaine prochaine à la même heure.